Bienvenue dans Le Logement, comment ça marche, votre nouvelle chronique d'information. Elle vous est proposée par l'Agence départementale d'information sur le logement des Bouches-du-Rhône. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet de préoccupation majeure des pouvoirs publics, la lutte contre l'habitat indigne. Rien qu'à Marseille, 40 000 logements seraient concernés. À ce sujet, vous l'ignorez peut-être, mais une ordonnance du 16 septembre 2020 est parue afin d'améliorer la mise en œuvre locale de la politique de lutte contre ce fléau. Cette ordonnance s'articule autour de trois axes majeurs : harmoniser les procédures administratives, répondre plus efficacement à l'urgence et fluidifier l'organisation au niveau intercommunal. Alors, que va-t-elle réellement changer cette ordonnance ? C'est un dossier franchement technique auquel on s'attaque aujourd'hui. Nous allons essayer de le simplifier au maximum grâce à nos deux experts, Thierry Moilic, le directeur de la DIL 13, et Audrey Fitoussi, juriste spécialisée en droit du logement à la DIL. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, Thierry, pouvez-vous nous dresser le contexte dans lequel s'inscrit cette ordonnance ?
Eh bien, la lutte contre l'habitat indigne a donné lieu à de nombreuses évolutions législatives et réglementaires ces dernières années. L'ordonnance du 16 septembre 2020 s'inscrit dans la continuité des grandes lois cadres, comme la loi SRU en 2000 et dernièrement la loi Allure en 2014 ou la loi Elan en 2018. Peu après la publication de cette loi Elan, le député Guillaume Vuilletet a été missionné par le Premier ministre afin d'établir des propositions de simplification des procédures en vue de résorber l'habitat indigne. Le député a rendu son rapport en octobre 2019. Il y formule 30 propositions. S'en est suivi un travail ministériel important, associant différents acteurs, des phases de concertation, de consultation, ou encore la saisine du Conseil d'État.
Finalement, l'ordonnance a été publiée au Journal officiel le 17 septembre 2020. Son premier axe consiste à harmoniser et simplifier les procédures administratives, notamment les polices spéciales. Actuellement, elles sont nombreuses, complexes et éparpillées au sein de plusieurs régimes, n'est-ce pas Audrey ?
Oui, absolument. Actuellement, vous avez 11 polices spéciales prévues par des textes différents et réparties dans deux codes. La police spéciale du maire au sein du code de la construction et de l'habitation avec le péril ordinaire, la police des équipements communs, celle sur l'entreposage de substances explosives ou inflammables ou encore les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Et vous avez aussi la police spéciale du préfet au sein du code de la santé publique avec la police des locaux impropres à l'habitation, la suroccupation du fait du logeur, les locaux dangereux par l'utilisation qui en est faite, le périmètre insalubre, la déclaration d'insalubrité et enfin le saturnisme.
Désormais, une police unique remplace cette dizaine de procédures.
Exactement, on l'appelle la police de la salubrité des immeubles, locaux et installations. Elle rassemble l'ensemble des polices spéciales actuelles dans un seul code, le code de la construction et de l'habitation, à l'article L511-1 et suivant. C'est elle et uniquement elle qui a pour objet de protéger la sécurité des occupants sur les différents risques. Une seule exception, la police relative aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, qui n'a finalement pas été intégrée dans cette police unique.
Il a été retenu de ne pas modifier le jeu des acteurs, c'est donc une réforme à acteurs constants.
Oui, le maire reste l'autorité compétente pour les situations relevant de la mise en sécurité. Le préfet reste l'autorité compétente pour les situations relevant du traitement de l'insalubrité. Et les pouvoirs de police spéciale sont exercés par le président de l'intercommunalité en cas de transfert par le maire ou de délégation par le préfet.
Thierry, deuxième axe important, l'ordonnance crée aussi une procédure spécifique pour les situations qui relèvent de l'urgence.
Tout à fait, cette procédure d'urgence va permettre d'intervenir dans un laps de temps plus court. Actuellement, si on prend comme exemple la procédure de péril, vous avez trois temps d'intervention. Un arrêté ordinaire qui peut aller de plusieurs semaines à plusieurs mois. Cet arrêté peut être précédé d'un arrêté d'urgence, péril imminent, avec l'intervention d'un expert qui est nommé par le tribunal administratif avec un délai qui ne sera jamais inférieur à 2 à 3 semaines. Et lorsqu'il faut intervenir très rapidement, dans la journée, et que la situation ne permet pas d'attendre la nomination d'un expert, on va utiliser la police générale du maire, mais qui ne permet pas de recouvrer les frais engagés par la commune auprès des propriétaires, ni d'appliquer le régime de protection des occupants.
Alors en quoi va consister cette nouvelle procédure d'urgence prévue par l'ordonnance ?
L'idée de l'ordonnance est de passer de 3 niveaux d'intervention à 2, en permettant au maire de traiter l'extrême urgence, non pas dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative générale, mais en passant directement par la nouvelle police unique. Pour pouvoir aller plus vite, le recours à l'expert judiciaire, actuellement obligatoire dans la procédure de péril imminent, devient facultatif. Les avantages de cette procédure d'urgence, outre d'agir plus vite pour le maire, c'est qu'elle permettra de recouvrer les sommes éventuellement engagées en cas de travaux d'office auprès du propriétaire. L'autre avantage est d'ouvrir aux occupants le régime de protection prévu aux polices spéciales, ce qui n'était pas le cas quand on utilisait la police générale du maire. Il s'agit par exemple de la suspension du paiement du loyer en principal ou encore de l'hébergement temporaire à la charge du bailleur.
Troisième et dernier point important, c'est favoriser l'organisation au niveau intercommunal. Sur ce plan, l'ordonnance vient modifier le transfert des pouvoirs de police des maires au président des intercommunalités, les fameux EPCI. Pour comprendre les changements, il faut encore savoir comment fonctionne la législation actuellement, Audrey.
Dans un délai de 6 mois suivant la date de l'élection du président de l'EPCI, si le président sortant n'exerçait pas dans une commune l'un des pouvoirs de police de l'habitat, le maire de cette commune peut s'opposer au transfert du pouvoir et à défaut d'opposition, le transfert devient effectif à l'expiration du délai de 6 mois. En revanche, si au moins un maire de l'intercommunalité s'est opposé à ce transfert, le président de l'EPCI a le choix entre exercer les pouvoirs uniquement là où ils ont été transférés automatiquement, ou bien refuser d'exercer ces pouvoirs sur l'ensemble de l'intercommunalité.
Thierry, expliquez-nous les changements opérés par l'ordonnance.
Eh bien, l'ordonnance rend plus difficile la renonciation totale du président de l'intercommunalité. Cette option n'est désormais possible que si au moins 50% des maires sont opposés au transfert de compétences, ou si les maires réfractaires représentent au moins 50% de la population de l'EPCI. Autre changement majeur, un maire qui s'est opposé au transfert pourra à tout moment revenir sur sa décision et transférer au président de l'intercommunalité les pouvoirs de police. Enfin, l'intercommunalité ne pourra refuser ce transfert de compétences de la part d'un maire s'il a déjà accepté de reprendre les pouvoirs de police d'un ou plusieurs maires de son territoire.
L'ordonnance modifie aussi la délégation des compétences du préfet au président des EPCI.
Oui, il faut rappeler que les délégations des pouvoirs des préfets au président d'intercommunalité ne sont possibles aujourd'hui que si 2 conditions sont réunies. L'intercommunalité doit être signataire d'une convention de délégation des compétences en matière d'habitat, c'est ce qu'on appelle la délégation des aides à la pierre. L'intercommunalité doit bénéficier de l'ensemble des transferts des pouvoirs de police de lutte contre l'habitat indigne de tous les maires des communes membres de l'EPCI. L'ordonnance assouplit le cadre des délégations des pouvoirs de police des préfets aux présidents d'intercommunalité. Il suffira désormais qu'une seule commune de l'EPCI ait transféré ses pouvoirs de police de lutte contre l'habitat indigne pour que la délégation des pouvoirs de police du préfet soit rendue possible.
Audrey, à partir de quand cette nouvelle ordonnance entre en vigueur ?
L'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions est fixée au 1er janvier 2021. Les dispositions de l'ordonnance ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter du 1er janvier 2021. Il faut aussi savoir que des décrets d'application sont actuellement en cours d'écriture. Mais aussi, dans le sillage de l'ordonnance, le député Guillaume Vilté devrait présenter courant 2021 une proposition de loi visant à créer de nouveaux outils de lutte contre l'habitat indigne.
Cela donnera certainement lieu à d'autres podcasts avec vous. Merci à nos 2 experts, Thierry Moalic et Audrey Fitoussi, pour ces éclaircissements sur un dossier relativement complexe. Rendez-vous mardi prochain pour un autre sujet dans le logement, comment ça marche ?